va passer à Jérémy, qui va nous parler du punk lorrain dans un espace plus vaste, entre intégration et isolement.
Oui, effectivement. C'est le bleu. Un, deux, on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Yes. Eh bien, bonjour. Alors, voilà, j'ai intitulé ma communication gueulée dans un micro à 20 ans en Lorraine, socio-histoire du punk dans une région sacrifiée. Alors, socio-histoire, c'est un petit peu pompeux, mais... et voilà, donc c'était, à vrai dire, c'était le sujet de mon mémoire de recherche. Donc j'ai passé deux ans à travailler sur le punk en Lorraine et comment ce mouvement est arrivé en Lorraine et s'est imprégné un petit peu des spécificités locales. Donc c'est un peu le thème de cette... c'est le thème de la journée, mais c'est aussi un peu le thème de ce que je vais raconter ici. Voilà, donc... Si le punk en fait s'est développé, s'est senti chez lui dans des villes comme Détroit, New York, Londres ou Paris, il trouve sa véritable raison d'être dans la rage, l'envie de faire, le sentiment d'être le seul à pouvoir créer les choses par soi-même. Et il n'est jamais au meilleur endroit que quand il est aux marges. Et c'est dans des régions industrielles, avec une jeunesse qui se sent abandonnée et prête à en découdre, comme en Lorraine, qu'il se sent vraiment chez lui. Et à la manière d'une éponge, le punk, sitôt plongé dans un milieu, s'imprègne justement de ces spécificités locales dont je vous parlais en introduction. Alors, Lorraine Terre de l'alternatif, punk rock messin, Nancy rock city, ces expressions pourraient sembler un petit peu contradictoires, pourtant ces mots collent parfaitement les uns aux autres. Le punk, appris en Lorraine, c'est une certitude. Comment a-t-il touché ces jeunes? Comment ces jeunes s'en sont saisis et réussissent à toucher d'autres jeunes ailleurs? Alors, comment le punk a-t-il pris ses marques, en Lorraine? Caps, leader du groupe mosellan PKRK et Charge 69, et aussi patron du label Combaroc, me racontait, quand j'ai fait l'étude, qu'il a commencé à traîner au centre-ville de Metz à partir de 77. J'étais au lycée, j'ai vu les premiers punks dans les rues de ma ville, donc Metz, ça a été un flash. Pas loin de là, en 76, le jeune Stéphane Borgeot, qui futur pilier de l'association nancéenne Trace Rock, voit depuis son balcon de Tomblaine, donc dans la banlieue de Nancy, le public affluer au concert des Damned. Ça a duré très peu de temps, les flics sont arrivés assez vite. Ça doit être un des premiers concerts punk à Nancy, j'habitais à 50 mètres, je regardais ça en me demandant ce qu'il se passait. Donc la fascination, elle est là. Je crois que j'avais mis... ah oui... No spoiler. La fascination est là, mais l'étincelle lorraine s'allume un peu plus tard, dans la première moitié des années 80. Le climat social et politique propice au mécontentement, on en a parlé tout à l'heure, montée du Front National, tournant de la rigueur, chômage galopant, favorise l'émergence des thématiques dans la musique punk qui prétend s'adresser aux jeunes français, ici tous les milieux, aussi bien la petite bourgeoisie, là je cite Caps, que ceux de la classe ouvrière, comme les membres de No Class, un groupe de Longwy dans le nord de la Lorraine qui chante la fin des mines. Alors, élément de contexte très rapide, je ne vais pas vous emmerder avec des chiffres, mais la Lorraine est une région industrielle par excellence. Elle est bordée au nord par les bassins houillés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, et au sud, par l'industrie textile dans les Vosges. La fin des Trente Glorieuses annonce le déclin de cette industrie lorraine. La Lorraine perd la moitié de ses emplois dans les mines ou dans le textile durant ces années-là. Le modèle anglais du coup n'est pas vraiment loin. La situation qui oppose les mineurs et les ouvriers britanniques à Margaret Thatcher dans les années 80 est une donnée essentielle pour comprendre la radicalité du mouvement punk outre-Manche. Ça, c'est Arnaud Rudboy dans son livre Nyark Nyark, fragment des scènes punk et rock alternatif en France, qui le dit. Et il en est de même pour le cas lorrain. Alors, à l'époque, tu suivais ce que faisaient tes parents. Ça, c'est ce que m'a expliqué un journaliste qui s'appelle Franck Frejnik, qui est un ancien activiste de Saint-Étienne, une autre région sinistrée. Comme ce qu'il faisait n'existe plus, il ne te reste rien. Gueuler dans un micro à 20 ans en Lorraine, ça devait être cool et avoir quelque chose d'exutoire. Dans l'éclosion du mouvement punk, le contexte économique et social a beaucoup joué en Lorraine. Alors, rien d'étonnant donc à ce que Longwy, par exemple, ville sidérurgique de Meurthe-et-Moselle, voit ses bars agités par les concerts de No Class, punk énergique, militant, ancré dans son temps et sa région. La chanson « On est baisé » en témoigne de manière éloquente. Alors, je ne vais pas vous passer le morceau, malheureusement, mais je vais passer un extrait de parole. Ça fait déjà un bout de temps qu'on est baisé comme des glands, par Giscard ou Mitterrand, par ce putain de gouvernement. À Longwy, il n'y a plus d'usine, il n'y a même plus de boulons. On chercherait bien des combines, car c'est l'argent qu'il nous faut. On est baisé, toujours baisé. Alors, cette frustration ne se contente pas à Longwy. No Class a eu un retentissement hors de la Lorraine, puisque le groupe a été signé sur un label orléanais qui s'appelait Chaos Productions. Il figurait aussi sur les compiles du dit label. Et évidemment en Lorraine, puisque plusieurs groupes comme PKRK ou GGNLN les citent comme exemple ou comme influence première. Alors, c'est autant ce groupe que l'histoire de la région qui marque l'esprit de jeunes punks en Lorraine. À l'époque, j'ai réalisé cette étude à la fin des années 2000. Il y avait un jeune groupe à Longwy qui se réclamait de ça, qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier, 18 ans d'âge moyen au compteur, composé, me disait-il, de fils d'ouvriers d'usine et de femmes au foyer, et qui revendiquait 25 ans plus tard l'héritage l'héritage sidérurgique lorrain et l'héritage de nos classes. Donc le groupe s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, c'est un nom qui est directement inspiré de la radio pirate qui émettait à l'époque, dans les années 80, à l'époque des grèves, et voilà, cette formation donc, se caractérise par son attachement au passé. Il me disait, la Lorraine s'est souvent cassée la gueule, on peut quand même s'estimer heureux d'être lorrain, on rend hommage à une Lorraine que les gens oublient. Et ils ont sorti un petit album qui s'appelait 96,7 MHz, qui était la fréquence de Lorraine Cœur d'Acier, la radio. Et dans la chanson Longwy, les quatre jeunes hurlent les revendications de leurs parents, mais aussi des ouvriers d'aujourd'hui, enfin en tout cas de l'époque de la fermeture des dernières mines et des dernières industries sidérurgiques en Lorraine. Pas un seul boulon ne sera démonté des installations. Un gros menteur l'avait affirmé avec obstination. Cherche sur les friches, il n'y a plus un seul boulon. Avant, le ciel était rouge d'espoir. À présent, il est noir de vieux cauchemars. Donc c'est assez intéressant de voir cette filiation qu'il y a entre les années 80 et les années 2000. En 98, on retourne un petit peu dans le passé, le groupe de punk rock de Metz, Charge 69, sort un EP au titre et à la pochette et au titre évocateur, sur fond de croix de Lorraine, une croix de Lorraine qui est encerclée d'un fil de barbelé ensanglanté. L'EP s'appelle Région Sacrifiée. Il joue aussi sur le terrain de la revendication. C'était une belle région, vous l'avez sacrifiée, plus rien n'a en tiré, vous la laissez tomber. Le sentiment d'abandon, le regret, la colère face au pouvoir public, le chômage, l'absence de perspective, autant de frustrations que ces groupes lorrains expriment et qui recoupent en partie donc les revendications des groupes qu'on peut trouver aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Alors, que faut-il voir dans ces textes, ces attitudes, ces références? Est-ce que c'est une nostalgie d'une époque de plein emploi? Est-ce que c'est la fierté d'appartenir à cette histoire chaotique de la Lorraine? Est-ce que c'est la défense d'une identité régionale aussi? Alors la problématique de l'identité lorraine est loin d'être comparable à celle de l'identité basque dont par exemple parlait Luc et Solveig tout à l'heure, l'identité corse ou l'identité bretonne, ces identités qui sont marquées par des volontés autonomistes. Ces volontés autonomistes ont d'ailleurs trouvé une résonance dans l'actualité de l'époque et le mouvement punk a pu s'en faire écho. On parlait tout à l'heure des basques espagnols de Cortatu, proches du parti indépendantiste, ont par exemple rencontré à l'époque une relative sympathie dans la scène française. Ça, c'est Franck Frejnik qui me disait, là-bas, les gens n'étaient pas seulement nationalistes, ils cherchaient à mettre quelque chose de social en place. Ou quand le régionalisme, finalement, rejoint les revendications sociales et politiques. Or, l'identité régionale lorraine, on revient à notre terrain d'étude, est quasiment inexistante. Cette identité régionale, elle se manifeste autrement par un mélange d'attachement à son territoire et de fierté de ce qui y est produit. Stéphane Borgeot, donc de l'association Nancienne Trace Rock, me disait « À Nancy, il y avait des actions et des gens passionnés qui répétaient dans leur local. » Non, ça c'est pour plus tard. Des gens passionnés qui répétaient dans leur local, mais qui galéraient à en sortir. Nous voulions les aider avec Trace Rock. C'était fait sans chauvinisme, et c'est ça qui est intéressant. C'était fait sans chauvinisme, sans vouloir mettre la ville en avant, mais en faisant aussi savoir qu'il s'y passait des choses intéressantes. Autre exemple significatif, celui du punk rock à Metz, dit punk rock messin, que vous devez connaître ici. Fondé dans la banlieue de Metz en 89, le label Combaroc et l'écurie de nombreux groupes lorrains, dont PKRK, Charge 69, Néophyte, Déprime 97, toutes ces formations sont issues des centres de l'alternatif. Elles sont estampillées à la fois par les fans et par les groupes eux-mêmes comme punk rock messin, à savoir punk rock venant de Metz. Et c'est d'ailleurs, c'est vraiment drôle à voir, c'est le seul punk rock en France où on trouve le punk rock et le nom d'une ville à côté. Il n'y a pas de punk rock bordelais, en tout cas pas qui se revendique comme tel, ou punk rock lillois. Voilà. Mais celui-ci n'a aucune revendication régionale ou régionaliste ou revendication identitaire. Dans les années 80, le mouvement punk français est absorbé par ce qu'on appelle la scène alternative, qui est une espèce de vaste fourre-tout où on trouve à la fois des groupes très sérieux et des choses totalement ridicules. Et Caps me disait, on a transformé quelque chose de sérieux en truc bébête et rigolo. C'est justement contre ce genre de dérive et pour éviter d'être catalogué alternatif que le punk rock messin, dont PKRK, le groupe de Caps et le Fer de Lance, est né. Le terme messin n'est d'ailleurs qu'une plaisanterie. On a commencé à l'écrire sur nos affiches, sur les badges et les t-shirts, se souvient Caps. Quand on montait à Paris pour jouer avec les Cadavres ou Zabriskie Point, on mettait sur les affiches punk rock de Metz. Plein de gens pensaient que tous les groupes venaient de là-bas. Ce qui est drôle, c'est que des groupes se revendiquaient messins sans même venir de Metz. Depuis, l'esprit est resté. Ce qu'on entendait par là, c'est qu'on ne voulait pas être catalogué, on ne voulait pas se démarquer des autres villes, mais plus des autres gens. Cette plaisanterie est pourtant devenue une espèce de fierté locale. Appartenir à cette scène messine, qu'on en soit de Metz ou non, revenait à clamer l'héritage de 77. Alors, pour qu'un mouvement dure, il faut une assise locale dont l'écho est national. En Lorraine, des actions comme celle menée par le fanzine Kérosène possèdent aussi cette dualité, une promotion sans faille de la scène locale et un ancrage dans le mouvement national quand il n'est pas mondial. En ce sens, donc le fanzine Kérosène, j'ai ramené quelques petits exemplaires que vous pourrez feuilleter si vous voulez tout à l'heure. Des actions menées comme ce fanzine possèdent aussi cette dualité. Une promotion sans faille de la scène locale et un ancrage dans un mouvement national quand il n'est pas mondial, j'ai déjà dit. En ce sens, le fanzine industriel tenu à Nancy entre 1995 et 2000 par Daniel Gérardin est l'une des plus belles réussites. C'était un trimestriel. Ce trimestriel, cette publication, se taille une place à part entière dans le milieu du fanzine à français. Pourquoi ? Grâce à une vaste ligne éditoriale et une qualité d'écriture assez remarquable. Le numéro 0, sorti en octobre 1995, ne réunit ni pas moins dans ses pages que des interviews de Fugazi, L7 et Body Count, des groupes américains, mais aussi des interviews de Burning Heads, un groupe d'Orléans, de Dominique A et de Lofofora, des artistes parisiens, ou encore de Molodeuil avec un ancien Berruet Noir. Et cette vaste ligne éditoriale se tient du premier numéro jusqu'au dernier numéro. J'étais très attaché à donner une bonne image de Nancy, me disait Daniel Gérardin. Les gens qui connaissent Kérosène me disent « Nancy, ça devait être fantastique ». Sur place, j'en avais pas l'impression. Par contre, les gens de l'extérieur devaient voir Nancy comme moi je voyais Lyon ou Bordeaux. Avec le recul, je me plaignais de plein de choses, mais Nancy était loin d'être une ville morte. Nancy devait faire partie des villes les plus actives de France. Alors, la promotion implicite de la scène locale, j'avais envie que les groupes marchent en Lorraine, me disait-il, faisait donc partie de la ligne éditoriale du fanzine. Le succès d'estime de Kérosène est tel que les articles ont eu un impact sur les réseaux français. La scène lorraine se rend digne d'intérêt. Dan Gérardin me citait un exemple, l'exemple du groupe Carn, corroboré par Fabien Hein, ici présent. Je ne sais pas si... en tout cas, il communique tout à l'heure. Donc, Fabien Hein était le bassiste de ce groupe. Et il me racontait que suite à une interview parue dans un numéro de Kérosène, son groupe de stoner, donc Carn, a pu décrocher une signature sur un label d'envergure et partir en tournée européenne. À Nancy, Kérosène était aussi épaulé par le réseau de l'association locale Trace Rock, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui organisait des concerts donc à Nancy entre 89 et les années 2000. Durant 20 ans et donc environ 500 concerts, l'association devint une des plaques tournantes de la vie DIY française. Et comme le souligne Stéphane Borjou, responsable de la programmation pendant un temps là-bas, le réseau de l'époque se construit et s'installe. Tout le monde connaissait Trace Rock de Nancy, comme tout le monde connaissait le Jimmy à Bordeaux. Tu passais un coup de fil, t'étais reconnu. Irréprochable. 2 minutes. Irréprochable au niveau de l'équipe, au niveau de l'éthique DIY, Trace Rock fait venir à Nancy des figures emblématiques de la scène rock mondiale. Fugazi, bosser avec eux était une fierté quand on connaît leur esprit DIY. L7, NoFX, Meudonné et même Hall dans un tout petit bar de la vieille ville. Et Stéphane Bourgeot m'avait raconté cette anecdote assez drôle. Courtney Love était à Amsterdam pour consoler Kurt Cobain. Elle est arrivée à Nancy à 23h30. Le patron du bar nous a dit « Rien à foutre, on n'annule pas. Si on ferme demain, je m'en fous, j'aurais fait Hall dans mon bar. » Concert 300 personnes dans la rue et la police qui débarque. Voilà, ce sont des actions concrètes qui se sont constituées grâce à un maillage d'acteurs et de lieux, comme chez Paulette à côté de Toul ou chez Narcisse ici même, qui laissent évidemment une culture de l'action en héritage. Le tissu associatif local se développe par capillarité, c'est d'ailleurs une des spécificités du do it yourself. Une action en entraîne une autre, comme dans un cercle vertueux. S'il me reste s'il me reste 2 minutes, je vais passer directement à la dernière partie. L'Underground, une affaire à régler en surface, qui m'amène donc à voilà. Alors, si le regretté Schultz a quitté Thionville, où il est né, pour monter Parabellum à Paris, c'est que rien, à l'époque, n'était possible en Lorraine, selon lui. Il manquait des gens, des lieux, et peut-être même une bienveillance. Stéphane Borgeau me disait « Beaucoup d'associations avec des gens volontaires se sont cassées la gueule parce qu'elles n'ont pas eu d'aide. Il ne faut pas se leurrer. Le milieu culturel français ne doit sa survie qu'aux subventions, soit municipales, soit nationales. » Et donc, on peut voir cette querelle de clochers qu'il y a eu entre Metz et Nancy. Longtemps mairie de droite, la ville de Nancy a totalement été réfractaire à ce genre d'initiative jeune et a verrouillé totalement son centre-ville. Alors qu'en face, en dépit d'une municipalité, elle aussi, de centre-droit, Nancy, elle, a toujours vu d'un œil plutôt bienveillant les actions menées par l'Underground, alors non sans arrière-pensée électorale. La mairie prend le train en marche, me disait Fabien Hein, mais elle permet aux actions de vivre, d'aller dans la durée, de prendre de l'ampleur. Elle encourage ces actions en prêtant des lieux, en prêtant des techniciens, en permettant la mise en conformité de salles, de création de lieux de diffusion, de sensibilisation du public et de valorisation de la production. C'est peut-être moins underground qu'avant, me concédait Stéphane Borgeau il y a quelques temps, mais les messages n'ont pas changé. Aller au concert à l'autre canal, donc une des salles subventionnées par la mairie à Nancy, et voir autant de jeunes, ça fait plaisir. Bon, pour d'autres, toutefois, il est difficile de rester underground dans une scène entièrement financée et gérée par les municipalités, ce qui se comprend. Hors micro, certaines associations m'ont expliqué déserter volontairement les salles institutionnalisées, notamment l'autre canal à Nancy, soucieuses de garder intacte leur démarche de promotion sans compromis. Mais voilà, en fait, on remarque que grâce à ce tissu associatif à la fois underground et officiel, la scène nancéenne a été particulièrement vivace. Pendant que j'ai fait cette étude, entre 2002 et 2010, j'ai pu dénombrer 23 lieux de diffusion musicale, du petit bar à la scène, municipale, dans tous les quartiers de la ville et au plus fort de l'activité, entre 2002 et 2005, 10 lieux fonctionnaient au même moment. Et c'est plus qu'honorable pour une ville de 105 000 habitants dans une région marquée par les luttes sociales et la construction conflictuelle des identités. Voilà. Lorraine, région sacrifiée, comme le chantait Charge 69. Malheureusement, cette région a eu tous les éléments rêvés pour voir éclore une scène punk. La jeunesse a pu trouver dans le punk la rage simple et exutoire, un moyen de s'exprimer. Le punk transforme la Lorraine en lieu de création, d'abord disparate, puis en laboratoire de militantisme réduit à petite échelle, et enfin en réseau structuré par ses activistes. Punk engagé à Longwy, le Manchester Meurthe et Mosellan, Alternative DIY à Metz, New Wave Arty à Nancy. Ces actions isolées et propres à leur région ont fini par trouver un sens quand elles ont été réunies autour d'initiatives communes. C'est créé alors un cercle vertueux d'actions dont je parlais tout à l'heure, les unes nourries par les précédentes, de plus en plus en surface. Ou quand l'underground qui s'est bâti à la force des poignets peut se retrouver accaparé par les initiatives plus institutionnalisées destinées à un public grandissant. Une manière de pérenniser le travail accompli jusque-là, au risque peut-être d'y perdre un peu de son âme rebelle née dans les mines du PIO et les rues malfamées de Metz. Merci beaucoup.
Merci Jérémy.